Aujourd'hui, dans l'atome de savoir, nous avons eu la chance de recevoir Patrice Bobo pour nous parler de la monnaie dématérialisée, donc la crypto-monnaie, et tous ces nouveaux moyens de paiement en ligne, etc., qui sont omniprésents aujourd'hui.
Je m'appelle Patrice Bobo, je suis maître de conférence en histoire économique à l'Université de Nanterre et je travaille principalement sur les questions bancaires et financières, ce qui ne surprendra pas les gens qui écouteront cette émission.
Pour commencer sur de bonnes bases,
est-ce que vous pouvez nous indiquer la différence entre la monnaie et les moyens de paiement?
Alors, la monnaie, c'est un peu la version générale ou théorique de ce que l'on utilise pour épargner, pour régler des achats, pour donner de l'argent de poche à nos enfants, pour régler certaines difficultés familiales ou professionnelles, pour payer des salaires ou pour en recevoir. Donc ça, c'est ce qu'on appelle la monnaie. Et les moyens de paiement, c'est un peu plus précis et c'est du coup un peu plus facile à définir. Ce sont tous les outils qu'on va employer en vue de régler un achat.
Et du coup, est-ce que vous pouvez brièvement nous parler de l'histoire de la monnaie?
Alors, c'est le problème, c'est qu'il y a deux histoires, en fait. Il y a une histoire de la monnaie et une histoire des moyens de paiement. L'histoire de la monnaie, on ne sait jamais trop s'il s'agit de l'histoire d'un concept. Ce concept lui-même, il évolue, parce que la monnaie a étendu ses fonctions et ses rôles dans les sociétés au fur et à mesure, justement, qu'elles se monétarisaient. Alors que les moyens de paiement, c'est une histoire qui est une histoire principalement technique et sociale. Technique parce que ces moyens de paiement, ils changent au fil du temps, en fonction des ressources techniques des sociétés considérées. En particulier, de ce point de vue-là, la monnaie, c'est-à-dire les moyens de paiement, sont l'objet du détour de production marxiste comme les autres objets produits, c'est-à-dire que la production des moyens de paiement met en jeu de plus en plus de gens, suivant une division du travail de plus en plus accentuée, et implique du coup une diffusion du processus de production à l'échelle sociale, géographique, etc., de plus en plus vaste. Hein, aujourd'hui, la monnaie, elle est mondialisée, comme le reste, et les moyens de paiement également. Un billet de banque, c'est quelque chose qui est même fabriqué en France, implique en fait par les fournitures qui sont nécessaires, pratiquement toute la planète. Donc ça, c'est un premier élément, c'est une histoire technique, et puis une histoire sociale de la monnaie, parce que tous les individus d'une société donnée n'ont pas accès ni à la monnaie, ni à toute la monnaie, ni à tous les moyens de paiement. C'est-à-dire que vous avez en fait une hiérarchisation des accès aux différents moyens de paiement qui reflète les hiérarchies sociales ou les distinctions professionnelles ou d'occupation. Alors, on peut donner des exemples hein, pour être plus précis. Par exemple, c'est l'exemple classique, c'est celui des cartes de paiement. D'accord? Vous avez de multiples sortes de cartes de paiement. Le degré zéro de la carte de paiement, celui qui ne met pas en cause votre puissance sociale, votre capacité de crédit, c'est la carte de paiement prépayée que vous achetez, par exemple la carte iTunes ou la carte Fnac ou la carte Galerie Lafayette, qui est préchargée, qui contient 10, 20, 40 euros et que vous achetez dans votre supermarché préféré. D'accord? Il y a aucun lien social attaché à cette carte. Vous pouvez la payer avec du liquide, avec un chèque, avec une autre carte de paiement, etc. Et vous allez pouvoir dépenser uniquement le porte-monnaie électronique qui est inclus dans cette carte et rien d'autre. D'accord? Le niveau de carte de paiement un peu plus élevé, c'est la carte de paiement qui est reliée à un compte bancaire et qui vous permet de mobiliser votre dépôt. D'accord? Et en France, on a beaucoup ce qu'on appelle les cartes de débit. C'est-à-dire que votre capacité à payer avec votre carte bancaire dépend du montant qu'il y a sur votre compte, de votre provision bancaire. C'est-à-dire que si vous allez au-delà de votre provision bancaire, vous ne pouvez plus vous servir de votre carte. Alors on peut aller un peu plus loin, c'est la carte de crédit. La carte de crédit, elle vous permet de mobiliser non seulement ce qu'il y a sur votre compte en banque, mais également l'autorisation de crédit que vous a fournie cette banque ou un organisme de crédit. Et donc, vous pouvez mobiliser des moyens de paiement au-delà de l'argent que vous avez en compte. D'accord? Puis, vous pouvez aller encore plus loin. Hein? Et là, on commence à rentrer. Si la banque vous avez fait crédit, c'est qu'elle a confiance, donc que vous avez déjà une certaine surface. Par exemple, vous avez un emploi, vous avez un papa qui est riche, des choses comme ça. Puis, vous avez encore un peu mieux. Vous avez après les cartes de paiement qui sont hiérarchisées en fonction de codes qui disent si vous êtes quelqu'un de bien ou pas. Hein, vous pouvez avoir une carte nationale, une carte internationale, une carte à débit différé, une carte ordinaire, une carte gold, une carte, je ne sais plus ce que c'est après, il y a, Il y a des cartes encore mieux. Voilà. Donc, on peut toujours aller plus loin. Et puis, votre carte, vous pouvez la faire personnaliser à partir de la carte Gold. Vous pouvez faire personnaliser votre carte pour y adjoindre des services supplémentaires. Augmenter les couvertures, les capacités de paiement hebdomadaire ou mensuel, les capacités de retrait, le nombre de pays dans lesquels elle est acceptée sans question, etc., etc., etc. D'accord? Donc, il y a une gradation, en quelque sorte, de ce moyen de paiement en fonction de votre position sociale et patrimoniale. Vous voyez bien. Et en réalité, c'est vrai de quasiment tous les moyens de paiement.
Et du coup, est-ce que vous pensez que ces changements dans notre façon de payer sont une simple évolution ou une vraie révolution au regard de l'histoire de la monnaie?
Alors, c'est compliqué parce que les deux, ils sont toujours liés. Hein. L'histoire, c'est rupture et continuité. Donc, il y a toujours un élément de continuité, puis il y a toujours un élément de rupture, par quoi on qualifie en général le terme révolution. Alors, dans le cas des monnaies électroniques en général, c'est une évolution. Pourquoi? Parce que faut pas négliger le fait que toutes ces monnaies électroniques, pour fonctionner, supposent un appareillage social et technique qui est absolument considérable. C'est-à-dire, il faut un équipement, il faut des relais 3G, 4G, 5G, il faut des câbles et de la fibre optique, il faut des ingénieurs, il faut des techniciens, etc., etc., etc. D'accord? Donc, c'est pas, ça suppose qu'il y a des choses qui existent déjà ou qui existent par ailleurs. Donc, forcément, il y a une dimension évolutive. En revanche, d'un point de vue conceptuel, il y a un certain nombre de ruptures qui sont intervenues et qui peuvent avoir des conséquences qui sont non négligeables. Et là, c'est une révolution, mais une révolution qui peut s'exercer dans la durée, c'est-à-dire qui peut faire sentir ses effets seulement progressivement. Et du point de vue des conceptions de la monnaie, c'est pas tellement la dimension électronique, parce que finalement, si on se contentait simplement de dématérialiser le papier, ça changerait pas grand-chose, si vous voulez. Et de ce point de vue-là, la dématérialisation, elle a commencé dans les banques bien avant de commencer auprès des particuliers. Mais c'est plutôt de nouvelles formes monétaires qui apparaissent. Et là, c'est vrai que les cryptocurrencies et les crypto-monnaies à blockchain apparaissent comme une rupture particulièrement importante dans la conception même de la monnaie. C'est-à-dire que, pour faire très très simple, les monnaies qui progressivement sont devenues très dominantes dans les sociétés contemporaines, ce sont des monnaies qu'on pourrait qualifier de verticales, c'est-à-dire qu'il y a un émetteur bien identifié ou un garant de cette valeur, et les gens, les particuliers plus spécialement, échangent ces moyens de paiement, mais ne participent jamais à la création, à la destruction de ces moyens de paiement. D'accord? Donc c'est très vertical, ils s'en remettent à l'autorité, et d'ailleurs ils n'ont même pas la plupart du temps à se poser la question de la qualité de cette monnaie, parce que cette question de la qualité de la monnaie, elle est prise en charge par les autorités, soit qu'elle gère les problèmes de contrefaçon, soit qu'elle offre des garanties quant au risque de faillite et donc de perte des dépôts des banques qui reçoivent les dépôts des particuliers. En revanche, on voit bien qu'avec les cryptocurrencies à blockchain, ce qui est proposé, c'est quelque chose qui est très différent, c'est-à-dire c'est une forme très horizontale de construction monétaire dans laquelle ce sont les particuliers qui vont aller chercher eux-mêmes leur monnaie en la minant. Alors, le terme minage est un peu galvaudé à mon avis, mais cette idée importante, c'est que la monnaie devient la récompense d'un travail social qui se développe, s'inscrit dans une communauté et qui est la communauté qui est rapprochée par l'usage commun de cette monnaie. D'accord? Alors, est-ce que c'est une monnaie au sens strict? On peut en débattre pendant très longtemps, hein, il y a des positions très, très diverses, mais la rupture principale, elle est là. C'est-à-dire qu'on passe d'un modèle qui est extrêmement hiérarchisé et qui progressivement est passé sous le contrôle des États à un modèle qui est beaucoup plus horizontal et qui, si on s'en réfère aux déclarations d'origine lors de la création du Bitcoin, est ex explicitement conçu contre l'État, considéré comme un mauvais maître des monnaies.
Et donc là, si je comprends bien, on peut vraiment imaginer une monnaie non régulée par les États.
Oui, c'est le cas. En fait, la plupart des cryptocurrencies aujourd'hui en circulation, il y en a des milliers, même si c'est très très largement dominé par le Bitcoin, sont des monnaies qui sont non régulées par les États. Alors, non régulées par les États au sens monétaire du terme, C'est-à-dire que les règles monétaires des États ne s'appliquent pas à ces monnaies. En revanche, il y a plein d'autres règles juridiques qui s'y appliquent, et notamment tous les régimes de propriété. Qu'est-ce qui fait que vous êtes propriétaire d'une monnaie sur blockchain? C'est quand même qu'il y a bien un système juridique qui vous permet de vous proclamer propriétaire. Il faut quand même que vous ayez une identité. Ce n'est pas la blockchain qui va vous la garantir, etc. etc. Et d'ailleurs, il y a eu un très grand nombre de fraudes associés à l'usage de ces cryptocurrencies, et les victimes de ces fraudes, ou ceux qui se prétendent victimes de ces fraudes, se sont tournés vers le système judiciaire. Donc ça montre bien qu'il ne faut pas tout confondre. L'absence de régulation spécifiquement monétaire de ces monnaies n'implique pas une absence de régulation de ces monnaies. D'accord ? Mais par les outils ordinaires du régime juridique concernant l'identité, la propriété, le domicile, etc.
Mais est-ce que ça ne serait pas donner trop de pouvoir sur la monnaie, donc sur la régulation de la monnaie, à un organisme privé?
Alors, c'est une question qui est un peu compliquée. On a un peu l'impression, quand on écoute nos responsables, que la monnaie, ça a toujours été quelque chose de public. C'est faux. D'accord ? Il était très très fréquent au 19e siècle pour un individu de régler un achat ou une transaction par la remise de ce qu'on appelle une obligation ou un billet à ordre, c'est-à-dire une forme de monnaie privée. Et certaines de ces monnaies privées circulaient, voire pouvaient rentrer dans le circuit de l'escompte officiel et donner lieu à l'émission d'une monnaie légale. Donc, ce qui est particulier, c'est que, si vous voulez, depuis la fin du XIXe siècle, progressivement, les systèmes monétaires des pays développés occidentaux sont devenus, en quasi-totalité, des systèmes monétaires publics, ou bien dérivés du système public. Bon, les banques sont privées, c'est elles qui créent la très grande majorité de la monnaie utilisée, mais elles le font d'une manière qui est en quelque sorte déléguée, avec des contraintes qui font que seules les banques ont le droit effectivement de créer ces monnaies. Et qu'est-ce qui montre que seules les banques ont le droit de créer ces monnaies? C'est que seules les banques ont le droit d'avoir un compte à la banque centrale. Donc, on a eu une sorte d'étatisation de plus en plus complète du système monétaire. Avant le 19e siècle, cette étatisation, elle n'existe pas véritablement. Elle va porter sur des domaines très, très précis. Par exemple, ce qu'on appelle les hôtels des monnaies, c'est-à-dire ces sortes de fabriques des pièces d'or et d'argent qui fonctionnent au 15e, 16e, 17e, 18e, 19e siècle. Eh bien, ces hôtels des monnaies, il y a plusieurs modèles qui existent, évidemment, mais le modèle, je dirais, classique, emblématique, c'est celui dans lequel ce sont des particuliers qui amènent à l'hôtel des monnaies les matières précieuses qu'ils souhaitent voir frapper sous forme de monnaie. Et ces hôtels de monnaie sont eux-mêmes opérés, mis en œuvre par des entrepreneurs privés qui louent auprès de l'État le droit de faire fonctionner ces entreprises. Donc on a bien un monopole étatique, mais ce monopole est délégué à des entrepreneurs privés, et on a bien des monnaies qui sont frappées par des entrepreneurs privés pour le compte, à l'initiative de particuliers, mais simplement l'État impose les normes de frappe de ces monnaies, c'est-à-dire quelle est l'unité de compte, par quoi elle est représentée, quelle est l'effigie qui doit être sur la pièce, etc. Donc, il ne faut pas confondre le fait que l'État a un droit sur la monnaie, notamment celui de réguler précisément qu'est-ce qu'on appelle monnaie et à quelles conditions tel ou tel objet matériel ou virtuel peut être appelé monnaie, et le fait que la monnaie, c'est l'État. La monnaie, c'est l'État, c'est vraiment un phénomène du XXe siècle, dans lequel les États prennent en charge quasiment en totalité la fabrication de la monnaie matérielle, monnaie papier, monnaie métallique, et d'autre part, établissent un contrôle de plus en plus étroit sur les banques, qui sont les seuls organismes autorisés à transformer les transactions des individus, des entreprises, en monnaie. D'accord ? Donc c'est un phénomène un peu récent. Et ce phénomène récent, il a atteint en quelque sorte son maximum lorsque le lien entre la monnaie et les métaux précieux a été suspendu entre 1971 et 1976. Depuis cette période, la valeur même de la monnaie ne repose plus sur son lien, même distant, avec une matière précieuse, quelque chose qui échappe au pouvoir des États, mais uniquement sur la bonne gestion de cette monnaie par ces mêmes États. D'accord ? Et c'est à ce moment-là, comme par hasard, que se sont développées toutes les contestations, les réflexions sur le fait que la monnaie soit une propriété publique, à ce moment-là. Donc les projets de concurrence monétaire, les projets de Hayek, par exemple, tout ce projet libertarien de créer une monnaie indépendante des États, tout ça émerge à ce moment-là. C'est aussi à cette époque-là que se développent très largement des projets de monnaie sociale et alternative qui fleurissent hein, depuis la fin des années 60 et depuis les années 70. C'est vraiment concomitant.
Et du coup, est-ce que vous pensez que donc ces crypto-currencies pourraient supplanter les monnaies dites étatiques, donc par exemple l'euro, le dollar, toutes ces monnaies auxquelles on a confiance? Et est-ce qu'on pourrait aboutir à une sorte de monnaie unique, comme enfin, par exemple si le Bitcoin devenait la monnaie de référence?
Alors, aujourd'hui, on est très très loin, pour une raison qui est toute simple, en fait. Hein, tant qu'on n'aura pas franchi ce cap-là, ça risque pas d'arriver. C'est que personne, ou à peu près, dans un pays qui est un pays d'étalon dollar ou un pays qui est d'étalon euro, ne se pose la question de la valeur de son euro ou de son dollar. D'accord? En gros, un dollar vaut un dollar et un euro vaut un euro. Quand vous avez un bitcoin, vous ne pouvez pas réfléchir comme ça. Un bitcoin ne vaut pas un bitcoin. La valeur du bitcoin varie en permanence. Et comme les biens qu'on peut acheter en bitcoin sont en réalité des biens qui sont valorisés, qui sont nommés, établis en dollars ou en euros, eh bien, le pouvoir d'achat de votre bitcoin, il varie tous les jours. D'accord? Donc, non seulement le taux de change varie, mais la capacité, hein, le pouvoir d'achat du bitcoin, lui aussi, varie. Parce qu'il n'achète pas des choses en bitcoin, le bitcoin. Il achète toujours des choses qui sont en réalité en euros, en dollars ou en autre chose. Et donc, dans ces conditions-là, ça fait que le bitcoin, comme monnaie, fonctionne assez mal. Une bonne définition de la monnaie, une définition très classique de la monnaie, c'est que la monnaie, c'est l'actif qui a le risque le plus faible, hein, l'actif le plus liquide, celui dont la réalisation n'entraîne pas de perte de valeur. Ah oui, si vous changez un dollar en dollar, vous avez un dollar, hein, zéro perte de valeur. D'accord? C'est pour ça qu'un compte en banque, c'est de la monnaie. Si vous avez 10 dollars sur votre compte en banque ou 10 euros sur votre compte en banque et que vous voulez obtenir les mêmes 10 euros ou 10 dollars en billets, ben vous aurez 10 dollars en billets ou 10 euros en billets ou 10 dollars en pièces, 10 euros en pièces. L'échange se fait au pair, un point. D'accord? Ce n'est pas le cas avec le bitcoin. Et donc le bitcoin, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en réalité, il se comporte bien davantage comme un actif financier que comme une monnaie. Alors on va dire, ah oui, mais on peut acheter des choses avec un bitcoin. Oui, mais vous pouvez acheter des choses avec un piano. Si vous trouvez un type qui est intéressé par votre piano et que vous lui achetez sa voiture et qu'il trouve que sa voiture vaut votre piano, vous pouvez changer votre voiture et votre piano. Ce n'est pas du piano, un moyen de paiement, d'accord? Ou une monnaie. Eh bien, le bitcoin, c'est un peu ça. Alors, c'est un peu plus proche d'une monnaie que le piano, d'accord? Vous pouvez mettre votre bitcoin dans une clé USB, vous ne pouvez pas mettre votre piano dans une clé USB, mais malgré tout, je ne sais pas la seule raison, mais malgré tout, mettons que c'est intermédiaire entre le piano et la monnaie au sens strict. C'est un actif.
Quel impact peut avoir la crypto-monnaie sur tout ce qui va être les banques et les marchés spéculatifs?
Alors, sur les banques, en fait, il faut distinguer deux choses. Il faut distinguer les crypto-monnaies et puis la technique du blockchain. D'accord? Le blockchain, lui, il a un impact dans plein, plein de domaines de la vie économique et sociale. D'ores et déjà, les principes du blockchain, sa capacité à faire la preuve de quelque chose en dehors du recours à un garant et des délais et des coûts que ça implique, fait que ça peut être utilisé pour le transport des containers, pour l'identification de produits, pour des contrats d'assurance, enfin pour plein de choses. D'accord? Donc ça c'est la technologie du blockchain. Ça fonctionne pour plein de choses. C'est à part. Après, et la cryptocurrency, sachant que le mode principal de cryptage, c'est effectivement quelque chose qui est associé à la blockchain, hein, puisque ça permet à la fois la preuve de travail et la garantie de l'unicité du Bitcoin ou de la cryptocurrency en question. Alors, qu'est-ce qu'il faudrait pour que ça révolutionne les choses? Ben, d'abord, il faudrait que ça devienne beaucoup plus commode à utiliser. D'accord? Aujourd'hui, les systèmes de cryptocurrency sont des systèmes qui ne permettent pas de réaliser un très grand nombre de transactions simultanément. Hein, ça bloque. Donc, une des conséquences, c'est que quand il y a un certain nombre de transactions qui sont réalisées en cryptocurrency, en Bitcoin typiquement, et le système peut enregistrer ou accumuler du retard par rapport à cette transaction. Ça, c'est quelque chose qui est inacceptable du point de vue bancaire ou financier. Deuxième élément, c'est que la quantité de Bitcoin, elle est extrêmement rigide. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que pour que le Bitcoin s'adapte, une cryptocurrency en général s'adapte à la quantité des transactions, il faut que sa valeur varie. C'est par le prix qu'on va adapter la quantité de Bitcoin à la demande. Dans le cas des systèmes monétaires, c'est pas le cas. On essaye de plus possible d'avoir une monnaie dont la valeur est stable, aussi bien en valeur interne, c'est le taux d'inflation, qu'en valeur externe, c'est le taux de change. Et donc, qu'est-ce qu'on va faire? Bah, quand on a besoin de plus de monnaie, on va en créer plus. Puis quand on a besoin de moins de monnaie, bah, on va détruire de la monnaie. D'accord? Et tout ça, ça se fait de manière assez efficace, assez spontanée. Et donc, c'est quelque chose qui a été testé, élaboré au fil des siècles. Et c'est pas un système dont on a envie de se passer facilement. C'est quand même mieux que ça passe par les quantités de monnaie que par les prix des monnaies. D'accord? Donc, pour que ces monnaies puissent avoir un impact, il faudrait trouver un moyen qu'elles soient plus élastiques en termes de quantité et moins volatiles en termes de prix. Et ça, c'est un petit peu compliqué. Une solution qui a été proposée depuis longtemps, c'est qu'une réserve de Bitcoin, en quelque sorte, serve de garantie à une sorte de cryptocurrency dérivée. D'accord? Donc, les Bitcoins seraient en quelque sorte stables, hein, serviraient de garantie à une masse de cryptocurrency dérivée plus ou moins importante qui s'adapterait aux transactions dans le groupe considéré. Mais ça revient en fait à créer ce qu'on appelle la banque fractionnaire, c'est-à-dire le principe bancaire qui fait fonctionner nos économies monétaires aujourd'hui. Donc on dupliquerait la même chose, et si vous avez un pool de cryptocurrency centrale, vous créez une mini-banque centrale, donc vous recréez un principe hiérarchique. Okay. Si vous regardez le projet Libra, par exemple, le projet Libra crée de la hiérarchie. Un projet Libra de Facebook implique en fait de recréer la hiérarchie. Mais c'est assez normal, parce que dans beaucoup d'aspects de notre vie, ce que nous souhaitons, c'est être libre, autonome, etc. Mais c'est aussi ne pas se compliquer la vie. D'accord ? Et pour ne pas se compliquer la vie, il faut qu'un certain nombre de tâches soient routinisées ou confiées à des gens qui savent mieux les effectuer que nous. Par exemple, des banquiers. D'accord ? Et si vous faites confiance à votre banquier pour gérer votre monnaie, c'est vous accepter d'une certaine façon que le système soit hiérarchique. Ok ? Donc, on revient. Donc, finalement, le Bitcoin comme monnaie parfaitement horizontale, ça peut fonctionner que dans deux cas. Soit toutes les autres monnaies disparaissent et tout le monde est obligé d'utiliser le Bitcoin. Le Bitcoin vaudra un Bitcoin parce qu'il n'y aura plus que du Bitcoin à échanger contre le Bitcoin. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de l'inflation ou des pertes de pouvoir d'achat, mais on ne pourra pas valoriser le Bitcoin en autre chose que le Bitcoin. Deuxième élément, il y a un acteur bienveillant qui se met à gérer le Bitcoin à notre place. Et qui fait en sorte que ce Bitcoin ne varie pas de valeur ou s'adapte en quantité aux besoins exprimés par les gens. Et donc, on recrée un système hiérarchique.
Et justement, ce que veulent éviter ceux qui utilisent le Bitcoin.
Exactement. Voilà, tout à fait.
Et donc, pour revenir maintenant sur les nouveaux modes de paiement, donc par exemple le paiement sans contact, tout ce qui va être paiement par carte, paiement en ligne, qui sont totalement dématérialisés maintenant, est-ce qu'on aura toujours le choix entre l'espèce et ces nouveaux modes de paiement, ou est-ce qu'on va être obligé maintenant de payer uniquement avec des cartes bancaires et sans espèce? On a vu notamment tout ce qui va être limitation, à partir d'un certain montant, on n'a plus le droit de payer par espèce, toutes ces choses-là.
Alors, c'est une très bonne question et ça pose un problème qui est celui de définir qu'est-ce que c'est que les espèces. D'accord ? À l'origine, les espèces, c'est uniquement évidemment des monnaies d'or et d'argent. Les billets de banque ne sont pas des espèces à l'origine, ce sont des moyens d'utiliser ces monnaies d'or et d'argent de manière plus efficace, par exemple en les laissant dans le coffre de la banque qui vous remet en échange des billets de banque, et vous utilisez des billets de banque plutôt que d'utiliser des espèces. D'accord. Et puis, déjà, en prenant l'habitude des billets de banque, on a considéré que les billets de banque faisaient partie des espèces. Ça s'est quasiment étendu au chèque, ce phénomène-là. Donc, la notion d'espèce est problématique à cause de ça. C'est-à-dire que, au sens strict, on devrait dire que les espèces, c'est uniquement ce qui se transmet de la main à la main, sans opération de signature ou de recours à un tiers. C'est-à-dire que, moi, je vous donne un objet, et ça suffit à effectuer le paiement. C'est ce qu'on appelle le paiement par tradition manuelle. D'accord. Est-ce que c'est une définition des espèces qui correspond toujours à notre époque? Je ne crois pas. Je ne crois pas parce que, en fait, et c'est un des problèmes quand on parle de paiement dématérialisé, une bonne partie de nos paiements, soit ils sont dématérialisés, mettent en jeu un objet. Quand vous payez avec votre téléphone et sa puce RFID, quand vous payez avec une carte sans contact, non. Alors pas une carte sans contact, on va mettre de côté les cartes sans contact, mais avec une carte de porte-monnaie électronique. Je sais, c'est assez peu pratiqué en France, il y avait eu un gros projet, mais il n'a pas fonctionné, mais à l'étranger, c'est assez commun. Pensez à la Oyster Card de Londres ou aux différentes cartes de paiement dans les transports au Japon, par exemple, hein, à la Suicard à Tokyo. Ce sont des cartes, en fait, ce ne sont pas des cartes de crédit ou de débit bancaire, elles ne sont pas associées à un compte bancaire, mais vous chargez cette carte avec une somme d'argent, c'est un porte-monnaie électronique, et puis vous réglez sans contact avec cette carte vos achats, que ce soit les tickets de métro ou de bus et trajets, ou bien des achats dans les commerces qui acceptent ces cartes également. Hein, c'est tout à fait possible aussi dans le métro de Tokyo d'acheter un café ou dans les supérettes qui sont si fréquentes à Tokyo de faire des petits achats avec cette carte du moment que vous avez la provision nécessaire. C'est-à-dire que c'est uniquement ce qui est dans la mémoire de la carte. D'accord? Donc on a un paiement qui, par certains côtés, est matériel puisqu'il faut être porteur de cette carte ou il faut être porteur de la puce RFID qui correspond à cette carte puisque vous pouvez faire fonctionner cette carte également au principe de cette carte à partir de votre téléphone portable. Mais ça ne peut pas être associé, comment dire, c'est pas directement associé à votre compte. C'est-à-dire que lorsque vous payez, le système ne va pas accéder à votre compte bancaire pour charger la provision nécessaire au règlement de la dépense. Il faut que ce chargement ait été effectué antérieurement. Hein. Par exemple, si vous êtes sur un campus universitaire, vous utilisez peut-être la carte EASLY. D'accord? Et le principe ici, c'est exactement la même chose. C'est-à-dire qu'il faut avoir chargé auparavant un montant nécessaire. C'est-à-dire que votre compte ne peut être que créditeur, ce qui est très avantageux pour EASLY, puisque tous les détenteurs de cartes EASLY offrent en quelque sorte gratuitement de la liquidité à EASLY. Et puis, vous pouvez payer vos petits achats ensuite. Et alors même que vous pouvez recharger votre carte EASLY depuis votre téléphone portable, sur votre téléphone portable, et payer avec votre téléphone portable, et recharger cette carte EASLY directement avec votre compte bancaire, eh bien, vous ne pouvez pas faire le lien direct entre le compte bancaire et le paiement EASLY. Vous êtes obligé de faire l'opération. D'accord? Donc, il y a bien un objet matériel, qui est un téléphone portable, une puce RFID, une carte de paiement, enfin, peu importe l'objet, il y a bien un objet. Donc, l'idée de dématérialisation est ambiguë de ce point de vue-là. Et deuxièmement, cet objet, il contient une valeur. Et c'est cette valeur qui va être réduite par chacun des actes de paiement que vous allez effectuer. Et si vous voulez continuer à payer, il faudra recharger ça, exactement comme un porte-monnaie. D'accord? Donc ça, c'est une première forme de paiement qui finalement ne s'écarte pas tellement des espèces. Alors, pourquoi est-ce que j'ai passé mon temps à vous raconter ces histoires-là que vous connaissez et qui ont l'air tout à fait inintéressantes, hein, hein, c'est l'impression de couper les cheveux en quatre quand même. Et c'est pour une raison toute simple, c'est que une caractéristique qui est très importante des espèces, qui à mon avis, je ne suis pas le seul, et la caractéristique la plus importante, c'est l'anonymat. D'accord? C'est-à-dire que quand vous payez avec un billet de banque, un billet, non, ou avec des pièces de monnaie, une prestation, un achat, quel qu'il soit, un des immenses avantages de cette modalité de paiement, c'est que personne ne peut vous tracer. C'est compliqué. D'accord? Par exemple, vous dites à votre endocrinologue que vous suivez un régime sans sucre très strict parce que vous êtes diabétique de type 2, mais vous êtes une fan des fraises Tagada. Vous allez chez votre épicier, vous payez vos fraises Tagada en liquide. Vous rentrez chez vous, vous boulottez votre paquet de fraises Tagada. Eh bien, vous pourrez dire avec votre endocrinologue, non, moi, je n'achète pas des saletés à l'épicerie. Regardez mon relevé bancaire. D'accord? Il n'y a pas de problème. Vous pouvez vous offrir, vous financer vos vices, quels qu'ils soient, que ce soit des vices minuscules comme la fraise Tagada ou des vices plus importants en impliquant, mettons, des produits dont la légalité est plus douteuse, sans qu'on puisse vous mettre en cause. D'accord? C'est-à-dire que ça fait reposer le choix d'une action que vous considérez comme juste ou injuste, morale ou immorale, sur votre propre conscience et non pas sur l'action du législateur ou du pouvoir exécutif à travers, euh, à travers la police. D'accord? De la même manière, vous ne laissez pas de traces de vos achats et de votre comportement auprès d'entreprises, auprès de l'État, auprès de n'importe quel observateur extérieur. Donc ça, c'est un immense avantage. Et cet anonymat, en fait, il est toujours limité. Parce que, par exemple, votre achat chez l'épicier de Trasagala, vous le faites bien chez l'épicier, lui, il vous a vu faire l'achat. Il le sait, voire il vous a filmé. Donc cet anonymat, il est toujours partiel. Donc l'anonymat qu'offre l'espèce, c'est un anonymat à l'égard des pouvoirs publics ou à l'égard de l'émetteur de cette monnaie. Il vous a remis la monnaie, il ne sait pas quel usage vous en ferez. D'accord? Si vous réfléchissez, quand vous utilisez votre carte de paiement ISLI, d'accord, vous avez aussi une forme d'anonymat. Cet anonymat, c'est à l'égard de la personne à qui vous payez. Vous achetez à l'épicier, enfin à votre restaurant universitaire, vous payez un repas, eh bien la personne à la caisse ne sait pas qui vous êtes. Son relevé ISLI ne va pas forcément vous dire qui vous êtes. On peut très bien imaginer des modalités d'anonymisation de ce point de vue-là. C'est-à-dire que ce ne sera pas anonyme pour ISLI, il pourra retracer avec qui vous avez fait la transaction, mais ce sera anonyme vis-à-vis de l'acheteur. D'accord? Donc ça veut dire que, en fait, un des aspects en fait, de ce développement des espèces électroniques, c'est de modifier la manière dont on envisage l'anonymat. C'est-à-dire que l'anonymat, au lieu d'être, entre guillemets, global, il n'est jamais tout à fait global, eh bien, il va se trouver divisé en plusieurs formes. Et on peut imaginer des moyens de paiement électroniques qui garantissent des anonymats dans différentes directions. Le Bitcoin, par exemple, il va vous offrir un anonymat entre la personne qui achète et la personne qui vend. D'accord? Mais vous laissez une trace, une fois que vous avez utilisé votre Bitcoin, c'est dans la blockchain. Donc, si les autorités judiciaires veulent remonter, elles peuvent le faire. D'accord? Quand vous payez avec du liquide chez votre épicier, vous êtes anonyme par rapport à l'émetteur de moyens de paiement et par rapport à l'épicier, sauf s'il vous connaît. D'accord? Si vous payez avec une carte de paiement type Suica, etc., avec un porte-monnaie électronique, vous êtes généralement anonyme par rapport à celui à qui vous payez, l'épicier, pas forcément anonyme par rapport à l'émetteur du moyen de paiement, qui lui va enregistrer la transaction pour pouvoir créditer l'épicier. D'accord? Donc cet anonymat, il devient plus complexe. Et c'est intéressant de conserver une mesure d'anonymat. Vous n'avez peut-être pas envie que votre épicier sache absolument tout ce que vous faites avec vos moyens de paiement. Vous n'avez peut-être pas envie que l'émetteur de moyens de paiement sache tout ce que vous faites avec vos moyens de paiement. Vous n'avez pas envie de savoir que l'État sache tout ce que vous faites avec vos moyens de paiement. Et donc, vis-à-vis de chacun de ces acteurs, vous voulez au moins en partie de l'anonymat. Alors, est-ce que ce changement, ces modifications, elles sont liées uniquement au cryptocurrency, à l'évolution de la monnaie électronique, à la dématérialisation? Non, en fait, on voit bien que dans le cas de la France, au moins depuis la Deuxième Guerre mondiale, il y a une pression quasiment constante de l'État pour réduire les formes anonymes de paiement. Au nom de la lutte contre le terrorisme de l'époque, hein, la résistance, contre le marché noir, mais aussi au nom d'un fantasme de lutte contre l'inflation. Il y avait cette idée chez les responsables politiques et financiers de l'époque que le billet de banque était par nature plus inflationniste que le compte en banque. Donc il fallait amener les gens progressivement à payer avec des comptes en banque plutôt que de payer avec des billets de banque. D'accord? Que ce soit vrai ou pas, et qu'effectivement le billet de banque était un moyen plus important de jouer sur les marchés noirs que le chèque, oui, évidemment. Mais il n'empêche que dans tous les cas, ça mène au même résultat, c'est-à-dire que cette pression à la réduction des moyens de paiement anonymes, elle existe depuis longtemps. Et d'ailleurs, quand vous regardez les plafonds de paiement en espèces, ils sont beaucoup plus faibles à l'égard de l'État que pour toutes les autres opérations économiques possibles. D'accord? Donc, vous voyez, cette question d'anonymat, c'est une question qui est compliquée. Ce n'est pas juste une question de type de monnaie, c'est aussi une question de choix effectué par les pouvoirs publics. Et traditionnellement, dans les pays qui sont plus attachés à la monnaie ou qui ont été peut-être moins victimes ou moins violemment victimes de l'inflation, comme dans les années récentes, hein, comme le Japon ou l'Allemagne, par exemple, les habitudes de paiement liquide sont beaucoup plus importantes. C'est tout à fait normal au Japon d'être payé de son salaire ou de payer des prestations même chères avec une liasse de liquide. On peut encore acheter votre voiture en billet de banque. C'est impossible en France.
Totalement impossible en France. Et comment ces modes de paiement et ces nouvelles monnaies, donc cryptocurrency, peuvent influer sur notre manière de consommer?
Ça, c'est très difficile à dire. Ça, c'est très difficile à dire. C'est très compliqué d'établir un lien entre un type de moyen de paiement et un type de consommation. De manière un petit peu caricaturale, on peut dire que plus un moyen de paiement est à une position subordonnée dans la hiérarchie des moyens de paiement, dans la puissance potentielle des moyens de paiement, plus ce moyen de paiement sera spécialisé. Okay? La perle du collier Club Med avec lequel il y a encore 30 ans on payait dans les Club Med n'avait de valeur que pour des petits achats et au Club Méditerranée. D'accord? En revanche, la pièce de monnaie, vous pouvez vous en servir aussi bien sur place que en dehors. Les monnaies dégradées ou les billets de banque en mauvais état, vous les trouverez plus facilement dans les petites boutiques auxquelles accèdent les personnes de conditions sociales modestes que dans les grands magasins de luxe. D'accord? Et ben c'est pareil pour ces moyens de paiement-là. C'est-à-dire que d'un côté, ils peuvent donner accès à un monde qui est celui du web, des différents biens et services qu'on peut accéder, y compris au dark web. Donc, on peut dire que d'une façon, ils ont une potentialité plus large, mais ils peuvent être tout à fait spécialisés. Par exemple, sur les plateformes de jeux en ligne, vous avez des monnaies propres au jeu dans lesquelles que vous ne pouvez utiliser que dans le cadre du jeu. Hein, vous gagnez des sortes de jetons, de pièces d'or, etc. quand vous avez gagné un combat, par exemple, mais vous pourrez dépenser ces monnaies que dans le cadre du jeu, par exemple, pour améliorer votre personnage. Mais ça n'empêche pas qu'il y ait des trafics et des échanges. C'est-à-dire que un autre joueur peut vouloir vous acheter vos monnaies ou vos améliorations et régler la transaction par une transaction de monnaie réelle. Hein, il y a tout un tas de trafics qui existent comme ça. Donc, c'est aussi possible. Donc, on ne peut pas affecter, dire par principe en quelque sorte, que parce que c'est une monnaie électronique, elle aura plus ou moins de capacité de paiement qu'une monnaie ordinaire. Ça dépend vraiment, en fait, du domaine dans lequel elle se situe, cette monnaie.
Mais est-ce que ces moyens de paiement, comme c'est bien plus facile de payer, on ne se rend pas forcément compte de l'argent qu'on a utilisé, est-ce que ça pousserait pas à la surconsommation?
Alors, ça c'est un débat qui est très ancien, en fait, déjà à l'époque du remplacement des pièces d'or et d'argent par des billets, comme les billets sont beaucoup plus commodes par certains côtés, ils sont plus légers, etc. Il y avait cette idée, ben voilà, maintenant on a des choses légères, on se rend plus compte de l'argent qu'on dépense, et donc hein, ça va encourager à la dépense. Faut pas que les femmes, par exemple, aient des billets de banque, parce que vous les connaissez, elles sont dépensières, et alors que si c'est des pièces d'argent, elles seront obligées de compter pièce à pièce et de se rendre compte que ça représente des grosses sommes d'argent, hein, vous voyez. Et ce type de discours, ça a continué, c'est pareil, ça a été pareil sur l'échec, donc par exemple, très longtemps en Belgique, l'échec était délivré à l'unité. Hein, vous n'aviez pas ou peu de carnet de chèques uniquement pour les personnes qui étaient tout en haut de la hiérarchie sociale. Parce que c'était quand même un moyen de paiement dangereux, le chèque. Hein, on pouvait marquer un peu n'importe quoi. Donc il valait mieux remettre le chèque à l'unité. Hein, moi, je me rappelle bien, à négocier au guichet de ma banque en Belgique pour avoir un chèque. Bon, alors que en France, on remettait des carnets de chèques. Parce que justement, l'État cherchait à encourager les gens à utiliser la monnaie scripturale plutôt que la monnaie fiduciaire dans une logique justement de contrôle de la masse monétaire. Donc, c'est un débat qu'on retrouve systématiquement. Vous aurez des psychologues qui vous écrivent en psychologie expérimentale. Il y a des travaux très sérieux sur le fait, le ressenti du paiement. Effectivement, la dématérialisation, d'une certaine façon, rend abstraite l'opération de paiement et fait peut-être que les gens réalisent moins. Pourquoi pas? Très bien. Oui, c'est vrai. Bon, en même temps, l'être humain, il apprend, hein, donc il va s'adapter à ces choses-là. Il n'y a pas de raison qu'on ne parvienne pas à maîtriser ce que représente la dépense lorsqu'elle est faite avec un moyen de paiement dématérialisé plutôt que lorsqu'elle est faite avec un moyen de paiement matériel. Les études tendent à montrer, malgré tout, qu'il y a effectivement un petit biais en faveur de la dépense quand la monnaie est dématérialisée que quand elle est matérielle. Est-ce que c'est un biais qui est appelé à durer? On ne peut pas dire aujourd'hui. Est-ce qu'on ne peut pas imaginer non plus des apps, hein, puisque ça passera par des téléphones portables ou équivalents, qui vous avertissent, est-ce que vous êtes vraiment sûr d'avoir besoin d'acheter ça? Tu te rappelles, tu avais dit que tu voulais me paramétrer pour que je te prévienne quand un achat ne semblait pas particulièrement utile. Bah, celui-là ne me semble pas particulièrement utile, alors est-ce que tu as une bonne raison de le faire? On peut très bien imaginer des apps hein, qui font ce genre de choses. Donc, on peut très bien mettre en place des systèmes qui viennent mettre un peu de viscosité dans les opérations de paiement, de manière à rétablir une réflexivité qui vous amène à vous poser la question, est-ce que j'ai vraiment envie de ça? Est-ce que c'est vraiment important? Est-ce que ça vaut l'argent que je vais y mettre? Etc. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, on peut imaginer plein de solutions. Juste dire qu'on est victime, en quelque sorte, c'est oublier aussi tous les avantages de ces moyens de paiement qui sont tellement commodes, où on a tout sur un seul appareil, etc. C'est ni le meilleur des mondes, ni le pire.
Et est-ce que la généralisation du paiement par carte ne va pas entraîner une augmentation, voire une création de frais pour les usagers? Est-ce que du coup, ça ne créerait pas même des inégalités entre les usagers?
Alors, c'est deux questions très différentes en fait. La première question, finalement, c'est celle du coût de la monnaie. C'est-à-dire que, contrairement à ce qu'on croit souvent, la monnaie, ça coûte cher, hein, ça coûte même très cher. Si vous avez une monnaie qui est exclusivement d'or et d'argent, vous allez avoir deux coûts. Le coût de la fabrication, qui n'est pas négligeable, hein, suivant votre système, c'est entre 0,1 et 0,5% de la valeur de la monnaie mise en circulation. Et puis, vous allez avoir ce qu'on appelle le frais. C'est-à-dire FRAI, c'est-à-dire l'usure de ces monnaies, de l'ordre de 2% de la masse mise en circulation par an. C'est considérable, c'est énorme. D'accord? Le frais et les pertes, c'est à peu près ça. Peut-être un peu moins pour les pièces les plus grosses, sur lesquelles on fait vraiment attention. Pour les petites pièces, les phénomènes de pertes sont particulièrement importants. Donc, tout système monétaire, ça a un coût. Ce coût, il est payé, socialisé, réparti, suivant des méthodes très différentes. Qu'est-ce qui fait que, si on prend l'exemple de la France, le coût de la monnaie pour les particuliers a semblé gratuit pendant si longtemps? C'est qu'en réalité, on est dans un pays qui s'est construit autour de l'idée que les comptes bancaires n'étaient pas rémunérés, les comptes de dépôt. Donc, ça veut dire que les banques pouvaient prêter les soldes des dépôts bancaires qui tournent très vite, mais qui en moyenne sont relativement stables hein, à travers les variations mensuelles, pouvaient les prêter sur les marchés, d'accord, en obtenir un rendement. Et ce rendement leur permettait en fait de payer le fonctionnement du système monétaire, c'est-à-dire à la fois du système scriptural et de la distribution des moyens de paiement. Quand vous allez au distributeur automatique, c'est une machine, ça coûte cher, il y a des frais d'opération, ça coûte cher, il faut mettre des billets de banque avec des gardes sécurisés, ça coûte cher, et vous allez avec votre carte, vous retirez 100 euros et ça vous a rien coûté. Il y a certaines banques qui facturent, mais beaucoup de banques en France ne facturent pas le retrait d'espèces. Donc tout ça a l'air gratuit, mais ça l'est pas. Ça l'est pas, et c'est payé principalement par le prélèvement sur le compte des particuliers qui ne reçoivent pas la rémunération sur leurs dépôts créditeurs. Alors, d'un point de vue justice sociale, c'est pas mal parce que ça veut dire que les gens qui ont tendance à avoir un compte créditeur sont ceux qui vont finalement financer le système. Alors, en réalité, c'est un peu plus compliqué. D'abord, parce que les gens qui sont riches, ils n'ont pas de compte créditeur. Ils ont des comptes où en permanence c'est géré et ils n'ont pas d'argent inactif. Donc ceux-là, ils bénéficient du système sans payer. D'autre part, les comptes débiteurs, eux, sont très lourdement. Enfin, les frais d'intérêt prélevés sur les comptes débiteurs sont très élevés. Et les banques, d'ailleurs, sont tout à fait intéressées à avoir des comptes débiteurs. Un bon client pour une banque, c'est un client qui a des découverts réguliers, mais pas systématiques. D'accord, c'est ça le bon client. Voilà, donc vous voyez que en fait la monnaie ça coûte de l'argent. La question c'est et qui paye? Est-ce que c'est le contribuable? Une monnaie d'or et d'argent, c'est le contribuable qui la paye. Est-ce que c'est l'utilisateur? Est-ce que c'est la banque? Voilà. Sauf que depuis quelques années, les taux d'intérêt sont extrêmement faibles. S'ils sont extrêmement faibles, ça veut dire quoi? C'est-à-dire que les banques ne peuvent plus placer ces dépôts sur les marchés financiers pour en tirer les revenus nécessaires pour financer le système monétaire. Et donc, elles deviennent beaucoup plus intéressées à trouver un moyen de réduire la part du système de paiement qui est la plus coûteuse pour eux, pour elles, pour ces banques. Et cette part qui est la plus coûteuse, c'est principalement les chèques et les espèces. Donc là, les banques, on va pas parler des banques BRICS, hein, elles sont dans une situation un peu particulière. C'est-à-dire que Elles ont un avantage concurrentiel sur les pure players, sur les banques entièrement virtuelles, qui est qu'elles offrent des distributeurs, elles offrent des services de caisse, etc., qui sont commodes pour les gens. D'accord? Et ça coûte cher. Et donc, c'est un avantage compétitif, mais qui coûte cher. Les pure players, ils n'ont pas ces coûts-là, mais en même temps, ils n'offrent pas ces services. Ou alors, il faut qu'ils les payent très cher auprès de banques partenaires. Mais lorsque les taux d'intérêt sont très faibles, les banques matérielles, les banques d'agence, eh bien, cet avantage compétitif, ça devient un coût, un surcroît de coût. Et donc, c'est toutes ces histoires de crédit agricole, des caisses d'épargne qui ferment des caisses, qui mettent en place des systèmes où ce sont des sortes d'agents qui sont pas propres à la banque, qui vont rendre un certain nombre de services. Parce que ça coûte cher. D'accord? Vous voyez, ça c'est la première question. Puis la deuxième question, c'est celle de l'exclusion, finalement. Est-ce que tout le monde peut servir de ces systèmes? Le pays le plus avancé en matière de dématérialisation en Europe, c'est la Suède. Vous savez, ils avaient lancé une grande politique là-dedans, et puis depuis quelques mois, ils reviennent en arrière, parce que il y a deux populations qui sont massivement exclues. C'est les plus pauvres, et en particulier parmi les plus pauvres, ceux qui viennent de l'étranger, donc qui ne maîtrisent pas les codes linguistiques et sociaux de l'usage de la monnaie dans le pays considéré, et d'autre part, les personnes âgées, c'est-à-dire qui ont du mal à utiliser les outils numériques, soit pour des raisons d'habitude, soit pour des raisons physiques. Hein. Quelqu'un qui voit mal, qui a de l'arthrose, etc., ben, taper des codes toute la journée sur des claviers un peu caractériel, c'est très compliqué. Donc, on se rend bien compte qu'une des qualités de la monnaie matérielle, c'est qu'elle est moins excluante de ce point de vue-là que des monnaies virtuelles, quand tout le monde n'a pas été éduqué à ces monnaies virtuelles ou électroniques. Et même dans ce cas-là, ça me paraît un peu compliqué. De ce point de vue-là, le porte-monnaie électronique offre des avantages considérables. C'est une très grande simplicité d'utilisation et vous pouvez vous faire aider. Hein, au Japon, vous voyez des vieilles personnes se faire aider pour recharger leur carte électronique dans les stations de métro, par exemple. Bon. Et donc ça, c'est quelque chose qui est important, d'éviter l'exclusion sociale. Et cette exclusion sociale, elle peut même prendre une importance encore plus grande dans des pays où les systèmes de sécurité sociale sont peu développés, ou bien, et parfois ça va ensemble, où il n'y a pas d'obligation au compte. Hein. Vous savez qu'en France, il y a une loi qui impose finalement une sorte de compte minimum pour raison sociale aux personnes à qui les banques ne souhaiteraient pas ouvrir un compte parce que ce ne sont pas des bons clients. Et donc, il y a une sorte de garantie d'accès aux services bancaires en France. D'accord? Mais aux États-Unis, on estime que 6,5% des Américains sont exclus de tout système bancaire. Or, si vous avez une monnaie qui est purement électronique, ça veut dire que vous allez avoir 6,5% de la population. C'est énorme. 6,5% de la population qui ne sera pas en mesure d'accéder au système monétaire lui-même. Ils ne pourront pas faire les actes simples de la vie. Et c'est à tel point que la mairie de New York vient de passer une réglementation demandant ou interdisant à un certain nombre de commerces d'exclure les paiements en espèces des moyens de paiement acceptés. Parce que pour des raisons de sécurité et de simplicité, un certain nombre de restaurants, de bars s'étaient dit, bah, pour nous c'est beaucoup plus commode, on supprime le cash, tout le monde paye avec son téléphone ou sa carte de paiement sans contact, et nous on n'a plus rien à gérer. D'accord? Sauf que ça ne marche pas pour tout.
Donc du coup, si je comprends bien, ces modes de paiement, voire ces nouvelles monnaies, elles vont créer des inégalités assez fortes.
Alors, elles vont créer des inégalités. C'est plutôt, elles vont révéler des inégalités. Ces inégalités, elles existent. Et tous les moyens de paiement sont attachés à des formes d'inégalités. Il n'y a pas de moyen de paiement qui serait égalitaire. D'accord? Voilà. La question, c'est de quelle manière on veut qu'elles révèlent ces inégalités, jusqu'à quel point et quels correctifs on peut apporter. D'accord? Il faut bien voir que la logique d'une entreprise privée, c'est de couvrir un marché. D'accord? Donc, leur problème, ce n'est pas de couvrir 100% des gens. C'est couvrir 100% du marché qui est rentable. Si ça représente 90% des gens, ça leur va très bien. OK? En revanche, une logique, je dirais, de service public, une logique de réseau, de bien commun, c'est de couvrir 100% des gens. D'accord? Et là, on est dans des approches qui sont complètement différentes. Et Facebook, son problème, ce n'est pas de couvrir 100% de l'humanité. C'est de couvrir les 100% de l'humanité qui peuvent être des clients Facebook. Ce qui n'est pas tout à fait la même chose. On peut espérer que l'État français ou l'Union européenne, s'il s'agit de gérer la question des moyens de paiement, se pose pas la question non pas en termes de qui est capable et utile socialement ou économiquement en termes d'usage de la monnaie, mais comment faire en sorte que les moyens monétaires soient accessibles à tous, et pas simplement à ceux qui sont, entre guillemets, socialement ou économiquement utiles. Vous voyez ce que je veux dire? Mais il n'y a pas de moyen de paiement qui n'implique pas de révéler les formes d'inégalité. D'accord? Ils ne les créent pas forcément par eux-mêmes, mais ils vont les révéler. Et c'est vrai de tous les moyens de paiement. Il n'y a pas d'exception de ce point de vue-là.
Mais est-ce que, non pas du coup de les créer, mais de les accentuer, est-ce que ces modes de paiement pourraient accentuer les inégalités qui existent déjà?
Oui, clairement. Oui, ça peut accentuer. Ça va révéler une fracture numérique, par exemple, ce qu'on appelle la fracture numérique, ça va la révéler. Et en la révélant, ça va accentuer les conséquences de cette fracture numérique, en faisant en sorte qu'une partie des gens victimes de cette fracture, ou qui ne sont pas capables d'accéder, parce que la notion de victime, c'est un peu compliqué, mais enfin, une fraction des personnes ne pourront pas accéder à un certain nombre de services considérés comme normaux ou essentiels à la participation à la vie sociale ordinaire. En fait, c'est ça le vrai problème. C'est dans quelle mesure est-ce qu'on n'ajoute pas une exclusion à une exclusion?
Et donc pour revenir sur l'exemple de la Suède, qui était le pays le plus avancé en termes de dématérialisation de la monnaie, et qui du coup est récemment revenu sur sa position, est-ce que vous pensez qu'une société avec une monnaie complètement dématérialisée est possible, même lorsque, imaginons, tout le monde est formé à ce type de monnaie?
Oui, c'est possible, à condition, encore une fois, qu'on s'entende sur le terme de dématérialisation, c'est-à-dire qu'on accepte dans ces formes de monnaie dématérialisée toute une série de variations, c'est-à-dire de téléphone, de compte, de moyens de mettre en œuvre ces monnaies. Des cartes sécurisées, etc. On peut imaginer plein de solutions. Et d'autre part, un certain nombre de garanties. Okay? Parce que, évidemment, un des intérêts paradoxaux des pièces et des billets, c'est que leur manipulation prend du temps. D'accord? Donc, soit vous, mettons, vous avez une vieille dame qui paye son kilo de carottes à son épicier favori. Elle va devoir ouvrir son sac, sortir son porte-monnaie, sortir l'argent de son porte-monnaie. Tout ça prend du temps. Donc, tout ça s'effectue dans un espace qui est public et collectif, où il y a une forme de surveillance, on peut même imaginer de bienveillance collective. Donc, si vous voulez nuire à la dame en question, il va falloir lui voler son argent, la bousculer, lui piquer son sac, enfin plein de choses comme ça. Si tout est résolu dans une seule carte que vous avez dans la poche de votre chemise, les risques de perte ou de manipulation deviennent beaucoup plus importants. C'est cette histoire qui est un peu une légende urbaine, mais qui existe quand même, de ces pirates, hein, des cartes de paiement sans contact, qui passent des terminaux de paiement à proximité des gens, suffisamment proches pour capter en fait le signal RFID et effectuer des paiements sauvages. D'accord? D'où la vente de porte-cartes qui sont en quelque sorte imperméables aux ondes magnétiques. Voilà. Donc, on crée des risques, si vous voulez. Et la vraie question, voilà, c'est ça. C'est comment est-ce que vous gérez des risques, comment vous créez un environnement qui est suffisamment varié, suffisamment sécurisé pour que tous les usages possibles, toutes les personnes possibles puissent s'y intégrer. D'accord? Voilà. C'est vraiment ça qui est important. Je pense que c'est possible, hein. C'est-à-dire qu'on peut aller vers une forme de dématérialisation totale de la monnaie. On le voit bien avec le Covid-19 aujourd'hui, hein. Une des conséquences du Covid-19, c'est un effondrement, des paiements en cash. Pourquoi? Parce que les gens savent très bien que les pièces et les billets sont susceptibles d'être porteurs, de virus. Alors, c'est marginal, hein. C'est des études faites tout de suite par les banques centrales européennes ont montré que les pièces et billets ne sont pas les porteurs d'eux, mais il n'empêche que ça implique un contact physique plus rapproché que n'importe quoi d'autre. Donc même si c'est pas par la pièce et par le billet, ça peut être par la proximité physique que ça implique, par le contact avec la main, enfin, etc. On peut penser que dans le cas d'un paiement sans contact ou d'un paiement dématérialisé, ce risque est beaucoup plus beaucoup plus faible. Pendant la grande peste de Londres, hein, en 1665, les gens avaient pris l'habitude de payer en jetant les pièces dans des petits bols de vinaigre. Hein, vous voyez, par exemple. Donc, il y a plein de choses qu'on peut imaginer. Il y a toujours des tas de variétés, une immense inventivité autour de la monnaie, parce que c'est un phénomène social qui est complexe. Et là où ça devient vraiment dangereux, c'est si on veut imposer les choses à marche forcée sans se poser la question de la capacité des gens à suivre. Et d'autre part, si on veut qu'il n'y ait qu'un seul mode de mise en œuvre de cette monnaie, une seule façon de mobiliser le moyen de paiement, parce que évidemment il y a des gens qui pourront pas le faire ou pas dans les bonnes conditions. Et il faut voir tout ce que ça peut signifier. Et donc il faut laisser aussi la possibilité aux individus d'innover, c'est-à-dire de créer des formes d'incarnation et d'utilisation de ces nouvelles monnaies qui soient adaptées à toutes les solutions. Après tout, on peut très bien imaginer que cette monnaie, elle se situe plutôt dans la boucle d'oreille, dans la montre, dans le téléphone portable, que ce soit une carte spéciale, que ce soit quelque chose qui soit attaché à votre vêtement ou à votre cou pour qu'on ne puisse pas le prendre, quelque chose qui suppose de manipuler deux objets simultanément pour éviter qu'on puisse voler l'argent qui est sur votre compte sans que vous en rendiez compte. Enfin, on peut imaginer plein de solutions et il y a sûrement des gens qui vont imaginer plein de solutions. Et il faut laisser ouverte la possibilité d'innovation parce que les possibilités sont infinies et on ne peut pas dire, ah bah non, il faut du vertical, il faut du vertical, il faut du vertical. Et c'est là où et Bitcoin nous rappelle quand même quelque chose d'important, c'est que la monnaie, ça ne peut pas être quelque chose uniquement vertical parce que c'est aussi du lien social. Et le lien social, ce n'est pas vertical.
Et donc, du coup, j'ai une dernière question par rapport, donc en parallèle de ces mouvements de dématérialisation. Depuis quelques années, il y a quand même un essor de nombreuses monnaies locales. Et comment pensez-vous que ces monnaies vont cohabiter? Est-ce qu'elles peuvent cohabiter? Et quels en seraient les avantages et les inconvénients de cette cohabitation?
Mais comme on l'a dit tout à l'heure, en fait, ces monnaies locales, elles ont commencé à se développer justement au moment où les États ont pris le contrôle total de la monnaie dans les années 60-70. Pour la plupart d'entre elles, ce ne sont pas des vraies monnaies. C'est-à-dire que, en particulier en France, ces monnaies ne peuvent être créées qu'en contrepartie d'un montant équivalent d'euros. Donc, en quelque sorte, ces monnaies circulent pour un montant équivalent de monnaie retirée de la circulation. Ça deviendra des vraies monnaies le jour où les gens pourront faire des opérations de crédit, de prêt, de report dans le temps, ou pourront produire par leur travail ces mêmes monnaies. Et ce n'est pas tout à fait le cas. Donc c'est une très forte limitation à ces monnaies locales. En revanche, un aspect très intéressant de ces monnaies locales, c'est qu'elles peuvent réintroduire des formes d'anonymat ou de lien communautaire. Et paradoxalement, ça va ensemble. Hein, on voit bien que l'anonymat, c'est quelque chose qui est plus ambigu que on ne le croit souvent. C'est pas juste l'individu tout seul. Pourquoi anonymat? Et bien parce que ces systèmes de paiement, ils vont être gérés de manière locale. Ça veut dire qu'évidemment, quand vous utilisez ces moyens de paiement au niveau local, vous n'êtes pas anonyme, mais vous êtes anonyme à l'égard de toute la société environnante. Okay? Donc c'est une forme d'anonymat. Et en sens inverse, c'est des monnaies de lien social. Hein. Pourquoi? Parce que le fait en général de les utiliser manifeste une volonté, un souci d'insertion dans une certaine forme d'économie ou de lien communautaire. Hein, le grand succès de l'ESCO, la monnaie basque, témoigne de cette dimension affective hein, de la monnaie et du souci de traduire finalement une certaine conception de la communauté dans un geste monétaire. Donc, vous voyez, les deux ne sont pas incompatibles. On ne peut pas opposer anonymat et communauté ou reconnaissance comme si c'était deux choses distinctes. En fait, non, pas du tout. Il y a une relation rhétorique entre les deux.
C'est la fin de cette interview. Merci à Patrice Bobo de nous avoir reçus.
Je vous remercie.
Je vous rappelle que ce reportage est à mettre en relation avec l'émission sur la monnaie dématérialisée qui sera diffusée le 23 avril.